Scène 16. Une caverne obscure, avec au milieu un chaudron bouillant, on entend le tonnerre. Les trois sorcières entrent. Première sorcière, trois fois le chat tacheté a miaulé. Deuxième sorcière, trois fois, et une fois le hérisson a grogné. Troisième sorcière, l'harpie crie, il est temps, il est temps. Première sorcière, tournons en rond autour du chaudron et jetons-y les entrailles empoisonnées. Crapaud, qui sous la froide pierre, endormi 31 jours et 31 nuits, a mitonné dans ton venin, boue le premier dans le pot enchanté. Toutes trois, double, double peine et trouble, feu brûle et chaudron bouillonne. Deuxième sorcière, filet de couleuvre de marais. Dans le chaudron boue et cuit, œil de salamandre, orteil de grenouille, poil de chauve-souris et langue de chien, langue fourchue de vipère, dard de reptile aveugle, patte de lézard, aile de hibou, pour faire un charme puissant en trouble, bouillé et écumé comme une soupe d'enfer. Toutes trois, double, double, peine et trouble, feu brûle et chaudron bouillonne. Troisième sorcière, écaille de dragon, dents de loup, momie de sorcière, estomac et gueule de requin dévorant des mers, racines de ciguë arrachées dans l'ombre, foie de juif blasphémateur, fiel de bouc, branche d'if cassée dans une éclipse de lune, nez de turc et lèvres de tartare, doigts d'un marmot étranglé en naissant et mis bas par une drôlesse dans un fossé, fait une bouillie épaisse et visqueuse. Ajoutons les boyaux de tigre comme ingrédients dans notre chaudron. Toutes trois, double, double, peine et trouble, feu brûle et chaudron bouillonne. Deuxième sorcière, refroidissons le tout avec du sang de babouin, et le charme sera solide et bon. Hécate et trois autres sorcières entrent. Hécate, oh, c'est bien, j'approuve votre besogne. Et chacune aura part au profit. Maintenant, tout autour du chaudron, entonnez une ronde comme les elfes et les fées, pour enchanter ce que vous y avez mis. On entend une chanson. Noirs esprits, etc. Deuxième sorcière. Au picotement de mes pouces, je sens qu'un maudit vient par ici. Ouvrez, serrure, à quiconque frappe. On entend frapper. Macbeth entre. Macbeth. Eh bien, mystérieuse et noire larve de minuit, que faites-vous? Toutes trois. Une œuvre sans nom. Macbeth. Je vous en conjure, au nom de la chose que vous professez, quels que soient vos moyens de savoir, répondez-moi. Dussiez-vous déchaîner les vents et les lancer à l'assaut des églises? Dussent les vagues écumantes détruire et engloutir toutes les marines, dussent les blés en épis être couchés et les arbres abattus, dussent les châteaux s'écrouler sur ceux qui les gardent, dussent les palais et les pyramides renverser leurs têtes sur leurs fondements, dussent du trésor de la nature tomber pêle-mêle tous les germes, jusqu'à ce que la destruction même soit écœurée, répondez à ce que je vous demande. Première sorcière, parle. Deuxième sorcière, questionne. Troisième sorcière, nous répondrons. Première sorcière, dis, aimes-tu mieux tout savoir de notre bouche ou de celle de nos maîtres? Macbeth, appelez-les, faites-les-moi voir. Première sorcière, versons le sang d'une truie qui a mangé ses 9 pourceaux. Prenons de la graisse qui a suinté du gibet d'un meurtrier et jetons-la dans la flamme. Toutes trois, viens d'en bas ou d'en haut et montre-toi adroitement dans ton œuvre. On entend le tonnerre, une tête armée d'un casque apparaît hors de terre. Macbeth, dis-moi, puissance inconnue. Première sorcière, il connaît ta pensée, écoute ses paroles, mais ne dis rien. Le fantôme, Macbeth, 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 défie-toi de Macduff, Défie-toi du tan de fif. Renvoyez-moi, c'est assez. » Le fantôme redescend. Macbeth, qui que tu sois, merci de ton bon avis. Tu as fait vibrer la corde de mon inquiétude. Mais un mot encore. Première sorcière, il ne se laisse pas commander. En voici un autre, plus puissant que le premier. On entend le tonnerre, le fantôme d'un enfant ensanglanté sort de terre. Le fantôme, Macbeth, Macbeth, Macbeth. Macbeth, je t'écouterais de trois oreilles si je les avais. Le fantôme, sois sanguinaire, hardi et résolu. Ris-toi du pouvoir de l'homme, car nul être né d'une femme ne pourra nuire à Macbeth. Le fantôme redescend. Macbeth. Alors vis, Macduff, qu'ai-je besoin de te craindre? Mais n'importe, je veux avoir une garantie double et engager le destin. Tu ne vivras pas. Ainsi je pourrais dire à la peur au cœur blême qu'elle ment et dormir en dépit de la foudre. On entend le tonnerre. Le fantôme d'un enfant couronné s'élève, ayant un arbre dans la main. Quel est celui qui surgit, pareil au fils d'un roi, et qui porte sur son front enfantin le cercle fermé de la souveraineté? Les trois sorcières. Écoute, mais ne lui parle pas. Le fantôme. Sois d'humeur léonine, sois fière, et ne t'inquiète pas de ceux qui ragent, s'agitent ou conspirent. Jamais, jamais Macbeth ne sera vaincu avant que la grande forêt de Birnam marche contre lui jusqu'à la haute colline de Dunsinan. Le fantôme redescend. Macbeth. Cela ne sera jamais. Qui peut faire la presse sur une forêt et sommer un arbre de détacher sa racine fixée en terre? Douce prédiction, ô bonheur! Révolte, ne lève pas la tête avant que la forêt de Birnam se lève, et notre Macbeth vivra dans les grandeurs, tout le bail de la nature, pour ne rendre qu'à l'heure coutumière de la mort le dernier soupir. Cependant mon cœur palpite pour savoir encore autre chose. Dites-moi, autant que votre art peut le deviner, si la lignée de Banquo règnera jamais dans ce royaume. Les trois sorcières. Ne cherche pas à en savoir davantage. Macbeth. Je veux être satisfait. Si vous me le refusez, qu'une éternelle malédiction tombe sur vous. Dites-moi tout. Pourquoi ce chaudron s'enfonce-t-il? Et quel est ce bruit? On entend une symphonie de hautbois. Première sorcière. Montrez-vous! Deuxième sorcière. Montrez-vous! Troisième sorcière. Montrez-vous! Toutes trois. Montrez-vous à ses yeux et affligez son cœur. Venez, puis disparaissez, ombre légère. Huit rois paraissent alors et traversent le théâtre à la file. Le dernier avec un miroir à la main. Banquo les suit. Macbeth. Tu ressembles trop à l'esprit de Banquo. Ah bah, ta couronne brûle mes prunelles. Tes cheveux, à toi, autre front cerclé d'or, sont comme ceux du premier. Le troisième ressemble au précédent. Sale strige. Pourquoi me montrez-vous cela? Un quatrième? Écartez-vous mes yeux. Quoi? Cette ligne se prolongera-t-elle jusqu'au craquement de la fin du monde? Un autre encore? Un septième? Je n'en veux plus voir, et pourtant le huitième apparaît, tenant un miroir qui m'en montre une foule d'autres, et j'en vois qui portent un double globe et un triple sceptre. Horrible vision! À présent, je le vois, c'est la vérité, car voici Banquo, tout barbouillé de sang, qui sourit et me montre ses enfants dans ses rois. Quoi ? En serait-il ainsi ? Première sorcière. Oui, seigneur, tout cela est exact. Mais pourquoi Macbeth reste-t-il ainsi stupéfait ? Allons, mes sœurs, relevons ses esprits en lui montrant le meilleur de nos divertissements. Je vais charmer l'air pour en tirer des sons, tandis que vous exécuterez votre antique ronde. Puisse alors ce grand roi reconnaître que nous avons dignement fêté sa venue. On entend de la musique, les sorcières dansent et s'évanouissent. Macbeth. Où sont-elles ? Parties ? Que cette heure funeste reste à jamais maudite dans le calendrier. Entrez, vous qui êtes là, dehors. Lennox entre. Lennox. Quel est le désir de votre grâce ? Macbeth. Avez-vous vu les sœurs fatidiques ? Lennox. Non, monseigneur. Macbeth. N'ont-elles pas passé près de vous ? Lennox. Non, vraiment, monseigneur. Macbeth. Infecté soit l'air sur lequel elles chevauchent, et damnés soient tous ceux qui les croient. J'ai entendu un galop de cheval. Qui donc est arrivé ? Lennox. Ce sont deux ou trois cavaliers, monseigneur, qui vous apportent la nouvelle que Macduff s'est enfui en Angleterre. Macbeth. Enfui en Angleterre ? Lennox. Oui, mon bon seigneur. Macbeth. Oh, tant, tu préviens mes exploits redoutés. L'intention fugace n'est jamais atteinte, à moins que l'action ne marche avec elle. À l'avenir, le premier mouvement de mon cœur sera le premier mouvement de ma main. Aujourd'hui même, pour couronner ma pensée par un acte, que la résolution prise soit exécutée. Je veux surprendre le château de Macduff, m'emparer de Fif, passer au fil de l'épée sa femme, ses petits-enfants et tous les êtres infortunés qui le continuent dans sa race. Pas de niaise forfanterie. J'accomplirai cette action avant que l'idée refroidisse. Mais plus de vision. Où sont ces messieurs ? Allons, conduisez-moi où ils sont. Ils sortent. Scène 17. Fif, une chambre dans le château de Macduff, entre Lady Macduff, son fils et Ross. Lady Macduff. Qu'avait-il fait qu'il l'obligeât à fuir le pays ? Ross. Vous devez avoir de la patience, madame. Lady Macduff. Il n'en a pas eu, lui. Sa fuite a été une folie. À défaut de nos actes, nos peurs font de nous des traîtres. Ross. Vous ne savez pas s'il y a eu de sa part sagesse ou peur. Lady Macduff. Sagesse ? Laisser sa femme, laisser ses enfants, ses gens et ses titres dans un lieu d'où il s'enfuit lui-même. Il ne nous aime pas. Il n'a pas même l'instinct de la nature. Le pauvre roitelet, le plus petit des oiseaux, défendra ses petits dans son nid contre le hibou. Il n'y a que de la peur et pas d'affection. Non, pas plus que de sagesse dans cette fuite précipitée ainsi contre toute raison. Ross. Ma chère petite cousine, je vous en prie, régentez-vous vous-même. Car pour votre mari, il est noble, sage, judicieux. Il connaît à fond les crises de notre époque. Je n'ose en dire davantage, mais ce sont des temps cruels que ceux où nous sommes traîtres sans le savoir, où nous écoutons les rumeurs de la crainte, sans savoir ce que nous craignons, flottant sur une mer farouche et violente qui nous agite en tous sens. Je prends congé de vous. Avant peu, je reviendrai. Quand une situation est au pire, il faut qu'elle cesse ou qu'elle se relève. Mon joli cousin, le ciel vous bénisse. Lady Macduff. Il a un père, et pourtant il n'a pas de père. Ross. Je serais fou de rester plus longtemps. Je causerais ma disgrâce et vous compromettrais. Je prends immédiatement congé de vous. » Ross sort. Lady Macduff. Garnement, votre père est mort. Qu'allez-vous faire? Comment vivrez-vous? L'enfant. Comme les oiseaux, mère. Lady Macduff. Quoi, de vers et de mouches? L'enfant. Je veux dire de ce que je trouverai, comme eux. Lady Macduff. Pauvre oiseau, tu ne craindrais jamais le filet, ni la glu, ni les pièges, ni le trébuchet. L'enfant. Pourquoi les craindrais-je, mère? Ils ne sont pas faits pour les pauvres oiseaux. Vous avez beau dire, mon père n'est pas mort. Lady Macduff. Si, il est mort. Comment remplaceras-tu un père? L'enfant. Et vous, comment remplacerez-vous un mari? Lady Macbeth. Ah, je puis m'en acheter 20 au marché. L'enfant. Alors vous ne les achèterez que pour les revendre. Lady Macduff. Tu parles avec tout ton esprit et ma foi avec assez d'esprit pour ton âge. L'enfant. Est-ce que mon père était un traître, mère? Lady Macduff. Oui, c'en était un. L'enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un traître? Lady Macduff. Eh bien, c'est quelqu'un qui fait un faux serment. L'enfant. Et ce sont des traîtres tous ceux qui font ça? Lady Macduff. Quiconque le fait est un traître et mérite d'être pendu. L'enfant. Et tous ceux qui font un faux serment méritent-ils d'être pendus? Lady Macduff. Tous. L'enfant. Qui est-ce qui doit les pendre? Lady Macduff. Eh bien, les honnêtes gens. L'enfant. Alors les faiseurs de faux serments sont des imbéciles, car ils sont assez nombreux pour battre les honnêtes gens et les pendre. Lady Macduff. Que Dieu te vienne en aide, pauvre singe. Mais qui te tiendra lieu de père? L'enfant. Si mon père était mort, vous le pleureriez. Si vous ne le pleuriez pas, ce serait signe que j'en aurais bien vite un nouveau. Lady Macduff. Pauvre babillard, comme tu jases. Entre un messager. Le messager. Le ciel vous bénisse, belle dame. Je ne vous suis pas connu, bien que je sache parfaitement le rang que vous tenez. Je soupçonne que quelque danger vous menace. Si vous voulez suivre la vie d'un homme qui parle net, qu'on ne vous trouve pas ici. Fuyez avec vos petits. Je suis bien brutal, je le sens, de vous effrayer ainsi. Bien pire serait pour vous l'horrible cruauté qui menace de si près votre personne. Dieu vous préserve. Je n'ose rester plus longtemps. Le messager sort. Lady Macduff. Où dois-je fuir? Je n'ai pas fait de mal. Mais je me rappelle à présent que je suis dans ce monde terrestre où faire le mal passe souvent pour louable et faire le bien parfois pour une dangereuse folie. Pourquoi donc, hélas, me couvrir de cette féminine excuse que je n'ai pas fait de mal? Quels sont ces visages? Entre des assassins. Premier assassin. Où est votre mari? Lady Macduff. Pas dans un lieu assez maudit, j'espère, pour qu'un homme tel que toi puisse le trouver. L'assassin. C'est un traître. L'enfant. Tu mens, scélérat, aux oreilles velues. L'assassin, le poignardant. Comment, mauvais œuf, menu fretin de trahison? L'enfant. Il m'a tué, mère, sauvez-vous, je vous prie. Il meurt. Lady Macduff sort en criant au meurtre et poursuivie par les assassins. Scène 18. En Angleterre, une salle dans le palais du roi, entre Malcolm et Macduff. Malcolm. Allons chercher quelque ombre désolée, et là, pleurons toutes les larmes de nos tristes cœurs. Macduff. Saisissons plutôt l'épée meurtrière, et comme de braves gens, couvrons de notre personne nos droits abattus. Chaque matin, de nouvelles veuves hurlent, de nouveaux orphelins sanglotent, de nouvelles douleurs frappent la face du ciel qui en retentit. comme si, par sympathie pour l'Écosse, il répétait dans un cri chaque syllabe de désespoir. Malcolm, je suis prêt à déplorer ce que je crois, à croire ce que je vois et à réparer ce que je pourrais dès que je trouverai l'occasion, ami. Ce que vous avez dit peut par hasard être vrai, mais ce tyran dont le seul nom ulcère notre langue était autrefois réputé honnête, vous l'avez beaucoup aimé. Il ne vous a pas encore effleuré. Je suis jeune, mais vous pouvez par moi bien mériter de lui, et ce serait sage de sacrifier un pauvre, faible et innocent agneau pour apaiser un dieu irrité. Macduff, je ne suis pas un traître. Malcolm, mais Macbeth en est un. Une bonne et vertueuse nature peut se démentir sur un ordre impérial. Mais je vous demande pardon. Mon opinion ne peut changer ce que vous êtes. Les anges sont brillants toujours, quoique le plus brillant soit tombé. Quand tout ce qu'il y a d'infâme aurait le front de la vertu n'en devrait pas moins avoir l'air vertueux. Macduff, j'ai perdu mes espérances. Malcolm, peut-être à l'endroit même où j'ai trouvé mes doutes. Pourquoi avez-vous quitté votre femme et vos enfants, ces objets si précieux, ces liens d'amour si forts, avec cette brusquerie sans même leur dire adieu? De grâce, voyez dans mes défiances non votre déshonneur, mais ma propre sûreté. Vous pouvez être parfaitement sincère, quoi que je puisse penser. Macduff, saigne, saigne, pauvre patrie, grande tyrannie, établis solidement ta base, car la vertu n'ose pas te combattre, jouis de ton usurpation, ton titre est consacré. Adieu, Seigneur, je ne voudrais pas être le misérable que tu penses. Pour tout l'espace de terre qui est dans la griffe du tyran, dût le riche Orient en être là point. Malcolm, ne vous offensez pas, je ne parle pas ainsi par défiance absolue de vous. Je crois que notre patrie s'affaisse sous le joug. Elle pleure, elle saigne, et chaque jour de plus ajoute une plaie à ses blessures. Je crois aussi que bien des bras se lèveraient pour ma cause, et ici même le gracieux roi d'Angleterre m'en a offert des meilleurs par milliers. Mais après tout, quand j'aurai écrasé ou mis au bout de mon épée la tête du tyran, ma pauvre patrie verra régner plus de vices qu'auparavant. Elle souffrira plus et de plus de manières que jamais sous celui qui lui succédera. Macduff, quel sera donc celui-là? Malcolm, ce sera moi-même, moi en qui je sens tous les vices si bien greffés que quand ils s'épanouiront, le noir Macbeth semblera pur comme neige, et la pauvre Écosse le tiendra pour un agneau en comparant ses actes à mes innombrables méfaits. Macduff, non. Dans les légions mêmes de l'horrible enfer, on ne trouverait pas un démon plus damné en perversité que Macbeth. Malcolm, j'accorde qu'il est sanguinaire, luxurieux, avare, fourbe, brusque, malicieux, imbu de tous les vices qui ont un nom. Mais il n'y a pas de fond, non, pas de fond à mon libertinage. Vos femmes, vos filles, vos matrones, vos vierges ne rempliraient pas la citerne de mes désirs, et mes passions franchiraient toutes les digues opposées à ma volonté. Mieux vaut Macbeth qu'un roi tel que moi. Macduff. L'intempérance sans borne est une tyrannie de la nature. Elle a fait le vide prématuré d'heureux trônes et la chute de bien des rois. Cependant, ne craignez pas de vous attribuer ce qui est à vous. Vous pourrez assouvir vos désirs à cœur joie et passer pour un homme froid au milieu d'un monde aveuglé. Nous avons assez de dames complaisantes. Il n'y a pas en vous de vautours qui puissent dévorer tout ce qui s'offrira à votre grandeur, aussitôt cette inclination connue. Malcolm. Outre cela, il y a dans ma nature, composé des plus mauvais instincts, une avarice si insatiable que si j'étais roi, je retrancherais tous les nobles pour avoir leurs terres. Je voudrais les joyaux de l'un, la maison de l'autre, et chaque nouvel avoir ne serait pour moi qu'une sauce qui me rendrait plus affamé. Je forgerais d'injustes querelles avec les meilleurs, avec les plus loyaux, et je les détruirais pour avoir leurs biens. Macduff. L'avarice creuse plus profondément, elle jette des racines plus pernicieuses que la luxure éphémère d'un été. Elle est l'épée qui a tué nos rois. Cependant, ne craignez rien. L'Écosse a de quoi combler vos désirs à foison. Rien que dans ce qui vous appartient, tout cela est supportable avec des vertus pour contrepoids. Malcolm. Des vertus, mais je n'en ai pas. Celles qui conviennent au roi, la justice, la sincérité, la tempérance, la stabilité, la générosité, la persévérance, la pitié, l'humanité, la piété, la patience, le courage, la fermeté. Je n'en ai pas même l'arrière-goût, mais j'abonde en penchants diversement criminels, que je satisfais par tous les moyens. Oui, si j'en avais le pouvoir, je verserais dans l'enfer le doux lait de la concorde, je bouleverserais la paix universelle, je détruirais toute unité sur la terre. Macduff. Ô Écosse, Écosse! Malcolm. Si un tel homme est fait pour gouverner, parle! Je suis ce que j'ai dit. Macduff. Fait pour gouverner? Non, pas même pour vivre, ô nation misérable, sous un usurpateur au sceptre sanglant. Quand reverras-tu tes jours prospères, puisque l'héritier le plus légitime de ton trône reste sous l'interdit de sa propre malédiction et blasphème son origine? Ton auguste père était le plus saint des rois. La reine qui t'a porté, plus souvent à genoux que debout, est morte chaque jour où elle a vécu. Adieu. Les vices dont tu t'accuses toi-même m'ont banni d'Écosse. Ô mon cœur, ici finit ton espérance. Malcolm. Macduff. Cette noble émotion, fille de l'intégrité, a effacé de mon âme les noirs scrupules et réconcilié mes pensées avec ta loyauté et ton honneur. Le diabolique Macbeth a déjà cherché par maintes ruses pareilles à m'attirer en son pouvoir, et une sage prudence me détourne d'une précipitation trop crédule. Mais que le Dieu d'en haut intervienne seul entre toi et moi, car dès ce moment, je me remets à ta direction, et je rétracte mes médisances contre moi-même. J'abjure ici les noirceurs et les vices que je me suis imputés, comme étranger à ma nature. Je suis encore inconnu à la femme. Je ne me suis jamais parjuré. C'est à peine si j'ai convoité ce qui m'appartenait. À aucune époque je n'ai violé ma foi. Je ne livrerai pas en traître un démon à un autre. J'aime la vérité non moins que la vie. Mon premier mensonge, je viens de le faire contre moi-même. Ce que je suis vraiment est à ta disposition, à celle de mon pauvre pays. Déjà avant ton arrivée ici, le vieux Siward, à la tête de 10 000 hommes vaillants, tous réunis sur un même point, allait marcher sur l'Écosse. Maintenant, nous partirons ensemble. Puisse notre fortune être aussi bonne que notre cause est juste. Pourquoi êtes-vous silencieux? Macduff. Il est bien difficile de concilier immédiatement d'aussi agréables choses et d'aussi désagréables. Entre un docteur. Malcolm. Bien, nous reparlerons tout à l'heure. Le roi va-t-il venir, dites-moi? Docteur. Oui, seigneur, il y a là un tas de misérables êtres qui attendent de lui la guérison. Leur maladie défie les puissants efforts de l'art, mais il n'a qu'à les toucher, et telle est la vertu sainte dont le ciel a doué sa main, qu'ils se rétablissent sur le champ. Malcolm. Je vous remercie, docteur. Le docteur sort. Macduff. De quelle maladie veut-il parler ?
Malcolm. On l'appelle le mal du roi.
C'est une opération tout à fait miraculeuse de ce bon prince, et que souvent depuis mon séjour en Angleterre, je lui ai vu faire. Comment il sollicite le ciel, lui seul le sait au juste. Le fait est que des gens étrangement atteints, tout enflés et couverts d'ulcères pitoyables à voir, vrai désespoir de la chirurgie, sont guéris par lui. Il pend autour de leur cou une pièce d'or qu'il attache avec de pieuses prières, et l'on dit qu'il laisse à la dynastie qui lui succédera le pouvoir béni de guérir. Outre cette étrange vertu, il a le céleste don de prophétie, et les mille bénédictions suspendues à son trône le proclament plein de grâce.
Entre Ross.
Macduff. Voyez qui vient ici ?
Malcolm.
Un de mes compatriotes, mais je ne le reconnais pas encore.
Macduff.
Mon cousin toujours charmant, soyez le bienvenu ici.
Malcolm.
Je le reconnais. Dieu de bonté, écarte bien vite les causes qui nous font étrangers.
Ross. Amen, Seigneur.
Macduff. L'Écosse est-elle encore dans le même état ?
Ross.
Hélas, pauvre patrie, elle a presque peur de se reconnaître. Elle ne peut plus être appelée notre mère, mais notre tombe. Hormis ce qui n'a pas de conscience, on n'y voit personne sourire. Des soupirs, des gémissements, des cris à déchirer l'air y sont entendus, mais non remarqués. Le désespoir violent y semble un délire vulgaire. La cloche des morts y sonne, sans qu'à peine on demande pour lui. La vie des hommes de bien y dure moins longtemps que la fleur de leur chapeau. Elle est finie avant d'être flétrie.
Macduff.
Ô récit trop minutieux et cependant trop vrai.
Malcolm.
Quel est le malheur le plus récent ?
Ross.
Le malheur vieux d'une heure siffle celui qui en parle. Chaque minute en enfante un nouveau.
Macduff.
Comment va ma femme ?
Ross.
Mais bien.
Macduff.
Et tous mes enfants ?
Ross.
Bien aussi.
Macduff.
Le tyran n'a pas attaqué leur repos ?
Ross.
Non, ils étaient bien en repos quand je les ai quittés.
Macduff.
Ne soyez pas avare de vos paroles. Où en sont les choses ?
Ross.
Quand je suis parti pour porter ici les nouvelles qui n'ont cessé de m'accabler, le bruit courait que beaucoup de braves gens s'étaient mis en campagne, et j'y crois d'autant plus volontiers que j'ai vu sur pied les forces du tyran. Le moment de la délivrance est venu. Un regard de vous en Écosse créerait des soldats et déciderait nos femmes même à combattre pour mettre fin à leurs cruelles angoisses.
Malcolm,
qu'elle se console. Nous partons pour l'Écosse. Sa Majesté d'Angleterre nous a prêté 10 000 hommes et le brave Siward, pas de plus vieux ni de meilleurs soldats que lui dans la chrétienté.
Ross.
Plût au ciel que je puisse répondre à ces consolations par d'autres. Mais j'ai à dire des paroles qui devraient être hurlées dans un désert où aucune oreille ne les saisirait.
Macduff.
Qui intéresse-t-elle ? La cause générale ? Ou ne sont-elles qu'un apanage de douleur dû à un seul cœur ?
Ross.
Il n'est pas d'âme honnête qui ne prenne une part à ce malheur, bien que la plus grande en revienne à vous seul.
Macduff.
Si elle doit m'échoir, ne la retenez pas. Donnez-la-moi vite.
Ross.
Que vos oreilles n'aient pas de ma voix une horreur éternelle, si elle leur transmet les accents les plus accablants qu'elles aient jamais entendus.
Macduff.
Je devine.
Ross.
Votre château a été surpris. Votre femme et vos enfants barbarement massacrés. Vous racontez les détails, ce serait à la curée de ces meurtres. Ajoutez votre mort.
Malcolm.
Ciel miséricordieux. Allons,
Mon cher, n'enfoncez point votre chapeau sur vos sourcils. Donnez la parole à la douleur. Le chagrin qui ne parle pas murmure au cœur gonflé l'injonction de se briser.
Macduff. Mes enfants aussi ?
Ross, femmes, enfants, serviteurs, tout ce qu'ils ont pu trouver.
Macduff.
Et il a fallu que je fusse absent. Ma femme tuée aussi.
Ross, j'ai dit.
Malcolm, prenez courage. Faisons de notre grande vengeance un remède qui guérisse cette mortelle douleur.
Macduff,
il n'a pas d'enfant. Tous mes jolis petits, avez-vous dit, tous. Ô infernal Milan, tous. Quoi, tous mes jolis poussins et leur mère, dénichés d'un seul coup.
Malcolm,
raisonnez la chose comme un homme.
Macduff,
oui, mais il faut bien aussi que je la sente en homme. Je ne puis oublier qu'il a existé des êtres qui m'étaient si précieux. Le ciel a donc regardé cela sans prendre leur parti. Coupable, Macduff, ils ont tous été frappés à cause de toi, misérable que je suis. Ce n'est pas leur faute, c'est la mienne, si le meurtre s'est abattu sur leurs âmes. Que le ciel les repose maintenant.
Malcolm.
Que ceci soit la pierre où votre épée s'aiguise. Que la douleur se change en colère. N'émoussez pas votre cœur, enragez-le.
Macduff.
Oh, moi, me borner à jouer la femme par les yeux et le bravage par la langue, non, ciel clément, coupe court à tout délai. Mets-moi face à face avec ce démon de l'Écosse. Place-le à la portée de mon épée, et s'il m'échappe, ô ciel, pardonne-lui aussi.
Malcolm.
Voilà de virils accents. Allons, rendons-nous près du roi. Nos forces sont prêtes. Il ne nous manque plus que les adieux. Macbeth est mûr pour la secousse fatale, et les puissances d'en haut font mouvoir leurs instruments. Acceptez tout ce qui peut vous consoler. Elle est longue la nuit qui ne trouve jamais le jour.
Ils sortent. Scène 19. Dunsinan. Une salle dans le château. Entre un médecin et une dame de service.
Le médecin. J'ai veillé deux nuits avec vous, mais je ne puis rien apercevoir qui confirme votre rapport. Quand s'est-elle ainsi promenée dernièrement ?
La dame de service.
Depuis que Sa Majesté est entrée en campagne, je l'ai vue se lever de son lit, jeter sur elle sa robe de nuit, ouvrir son cabinet, prendre du papier, le plier, écrire dessus, le lire, ensuite le sceller et retourner au lit. Tout cela pourtant dans le plus profond sommeil.
Le médecin.
Grande perturbation de la nature, recevoir à la fois les bienfaits du sommeil et agir comme en état de veille. Dans cette agitation léthargique, outre ses promenades et autres actes effectifs, par moments, que lui avez-vous entendu dire ?
La dame de service.
Des choses, monsieur, que je ne veux pas répéter après elle.
Le médecin.
Vous pouvez me les redire à moi, cela est de stricte convenance.
La dame de service.
Ni à vous, ni à personne, puisque je n'ai pas de témoin pour confirmer mes paroles.
Entre Lady Macbeth avec un flambeau.
Tenez, la voici qui vient, justement dans la même tenue, et sur ma vie profondément endormie. Observez-la, approchez.
Le médecin.
Comment s'est-elle procurée cette lumière ?
La dame de service.
Ah, elle l'avait près d'elle. Elle a de la lumière près d'elle continuellement, c'est son ordre.
Le médecin.
Vous voyez, ses yeux sont ouverts.
La dame de service.
Oui, mais ils sont fermés à la sensation.
Le médecin.
Qu'est-ce qu'elle fait là ? Regardez comme elle se frotte les mains.
La dame de service.
C'est un geste qui lui est habituel, d'avoir ainsi l'air de se laver les mains. Je l'ai vu continuer à faire cela pendant un quart d'heure.
Lady Macbeth.
Il y a toujours une tâche. Le docteur. Écoutez, elle parle. Je vais noter tout ce qui lui échappera pour fixer plus fermement mon souvenir.
Lady Macbeth.
Va-t'en, tâche damnée, va-t'en, dis-je. Une, deux. Alors il est temps de faire la chose. L'enfer est sombre. Fi, mon seigneur, fi. Un soldat avoir peur. À quoi bon redouter qu'on le sache, quand nul ne pourra demander de compte à notre autorité? Pourtant, qui aurait cru que le vieux homme eût en lui tant de sang?
Le médecin. Remarquez-vous cela?
Lady Macbeth.
Le tan de Fife avait une femme. Où est-elle à présent? Quoi? Ces mains-là ne seront donc jamais propres?
Assez, monseigneur, assez! Vous gâtez tout avec ces frémissements.
Le médecin.
Allez, allez, vous en savez plus que vous ne devriez.
La dame de service.
Elle a parlé plus qu'elle n'aurait dû, je suis sûr de cela. Le ciel sait ce qu'elle sait.
Lady Macbeth.
Il y a toujours l'odeur du sang. Tous les parfums d'Arabie ne rendraient pas suave cette petite main. Oh!
Le médecin.
Quel soupir! Son cœur est douloureusement chargé.
La dame de service.
Je ne voudrais pas avoir dans mon sein un cœur pareil, pour tous les honneurs rendus à sa personne.
Le médecin.
Bien, bien, bien.
La dame de service.
Priez Dieu que tout soit bien, monsieur.
Le médecin.
Cette maladie échappe à mon art. Cependant, j'ai connu des gens qui se sont promenés dans leur sommeil et qui sont morts saintement dans leur lit.
Lady Macbeth.
Lavez vos mains, mettez votre robe de nuit, ne soyez pas si pâle. Je vous le répète, Banquo est enterré, il ne peut pas sortir de sa tombe.
Le médecin.
Serait-il vrai?
Lady Macbeth.
Au lit, on frappe à la porte. Venez, 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 donnez-moi votre main. Ce qui est fait ne peut être défait. Au lit, au lit, au lit.
Lady Macbeth sort.
Le médecin.
Ira-t-elle au lit maintenant?
La dame de service.
Tout droit.
Le médecin.
D'horribles murmures ont été proférés. Des actions contre nature produisent des troubles contre nature. Les consciences infectées décharge leurs secrets sur les sourds oreillers. Elle a plus besoin du prêtre que du médecin. Dieu, Dieu, pardonne-nous à tous, suivez-la. Éloignez d'elle tout ce qui peut être nuisible, et ayez toujours les yeux sur elle. Sur ce, bonne nuit. Elle a confondu mon âme et effaré mes regards. Je pense, mais je n'ose parler.
La dame de service.
Bonne nuit, bon docteur.
Ils sortent. Scène 20. Les environs de Dunsinan. Entre tambour battant, enseigne déployée, Mentes, Casnes, Angus, Lennox et des soldats. Mentes.
Les forces anglaises approchent, conduites par Malcolm, son oncle Siward et le brave Macduff. La vengeance brûle en eux. Une cause si chère entraînerait à la charge sanglante et sinistre l'homme le plus mortifié.
Angus.
Nous les rencontrerons sûrement près de la forêt de Birnam. C'est par cette route qu'ils arrivent.
Casnes.
Qui sait si Donald Ben est avec son frère?
Lennox.
Je suis certain que non, monsieur. J'ai la liste de tous les gentilshommes. Le fils de Siward en est, ainsi que beaucoup de jeunes imberbes qui font aujourd'hui leur première preuve de virilité.
Mentes.
Que fait le tyran?
Casnes.
Il fortifie solidement le donjon de Dunsinan. Quelques-uns disent qu'il est fou. D'autres qui le haïssent moins appellent cela une vaillante furie. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas boucler sa cause défaillante dans le ceinturon de la règle.
Angus.
C'est maintenant qu'il sent ses meurtres secrets se coller à ses mains.
À chaque instant, des révoltes lui jettent à la face sa foi brisée. Ceux qu'il commande obéissent seulement au commandement, nullement à l'affection. Il sent maintenant sa grandeur s'affaisser autour de lui, comme une robe de géant sur un voleur nain.
Mentes, qui blâmerait ses sens surmenés de se révolter et de bondir quand tout ce qui est en lui se reproche d'y être?
Casnès, allons, mettons-nous en marche pour porter notre obéissance à qui nous la devons. Allons trouver le médecin de la société malade. Et réunis à lui, versons pour purger notre pays toutes les gouttes de notre sang.
Lennox,
versons-en du moins ce qu'il en faudra pour arroser la fleur souveraine et noyer la zizanie. Dirigeons notre marche sur Birnam.
Ils sortent.
Scène 21. Dunsinane, une salle dans le château. Entre Macbeth, le médecin, des gens de la suite.
Macbeth.
Ne me transmettez plus de rapports, qu'ils désertent tous. Jusqu'à ce que la forêt de Birnam se transporte à Dunsinane, je ne puis être atteint par la crainte. Qu'est-ce que le marmouset Malcolm? N'est-il pas né d'une femme? Les esprits qui connaissent toutes les conséquences mortelles ont prononcé ainsi à mon égard. Ne crains rien, Macbeth, nul homme né d'une femme n'aura jamais de pouvoir sur toi. Fuyez donc, Dan, traître, et allez vous mêler aux épicuriens anglais. L'âme par qui je règne et le cœur que je porte ne seront jamais accablés par le doute ni ébranlés par la peur.
Entre un serviteur.
Que le diable te noircisse de sa damnation, drôle à face de crème. Où as-tu pris cet air d'oie?
Le serviteur. Il y a 10 000.
Macbeth.
Oison, maraud.
Le serviteur.
Soldat, seigneur.
Macbeth.
Va, pique-toi le visage et farde de rouge ta peur, marmot, foi de lys. Quel soldat, chiffon! Mort de ton âme, tes joues de linge sont conseillères de peur. Quel soldat, face de lait caillé!
Le serviteur.
Les forces anglaises sauvent votre bon plaisir.
Macbeth.
Ôte ta face d'ici, s'étonne. Le cœur me lève quand je vois, s'étonne. Allons, ce grand coup, va m'exalter pour toujours ou me désarçonner tout de suite. J'ai assez vécu. Le printemps de ma vie est en proie à la sécheresse, aux feuilles jaunes. De tout ce qui doit accompagner le vieil âge, le respect, l'amour, l'obéissance, les troupes d'amis, je n'ai plus rien à espérer. Ce qui m'attend à la place, ce sont des malédictions muettes mais profondes, des hommages de bouche, murmures, que les pauvres cœurs retiendraient volontiers s'ils l'osaient. S'étonne.
Entre s'étonne.
S'étonne.
Quel est votre gracieux plaisir?
Macbeth.
Quelles nouvelles encore?
S'étonne.
Tous les rapports se confirment, monseigneur.
Macbeth.
Je combattrai jusqu'à ce que ma chair tombe hachée de mes os. Donne-moi mon armure.
S'étonne.
Il n'en est pas encore besoin.
Macbeth.
Je veux la mettre. Qu'on lance encore de la cavalerie. Qu'on balaye la contrée d'alentour, qu'on pende ceux qui parlent de peur, donne-moi mon armure. Comment va votre malade, docteur?
Le médecin.
Elle a moins une maladie, monseigneur, qu'un trouble causé par d'accablantes visions qui l'empêchent de reposer.
Macbeth.
Guéris-la de cela. Tu ne peux donc pas traiter un esprit malade, arracher de la mémoire un chagrin enraciné? Effacer les ennuis inscrits dans le cerveau, et grâce à quelques 12 antidotes d'oubli, débarrasser le sein gonflé des dangereuses matières qui pèsent sur le cœur.
Le médecin.
En pareil cas, c'est au malade à se traiter lui-même.
Macbeth.
Qu'on jette la médecine aux chiens. Je ne veux rien d'elle. Allons, mettez-moi mon armure, donnez-moi mon bâton de commandement. S'étonne. Fais faire une sortie. Docteur, l'étane me déserte. Allons, mon cher, dépêchons. Si tu pouvais, docteur, examiner l'eau de mon royaume, découvrir sa maladie, et lui rendre en le purgeant sa bonne santé première, je jetterais tes louanges à tous les échos pour qu'ils les répétassent. Ôtez-moi mon armure, vous dis-je. Quelle rhubarbe, quelle sénée, quelle drogue purgative pourrait donc faire évacuer d'ici ces Anglais? As-tu, oui, parlé d'eux?
Le médecin. Oui, mon bon seigneur, les préparatifs de votre majesté nous ont donné de leurs nouvelles.
Macbeth. Qu'on porte mon armure derrière moi, je ne craindrai pas la mort ni la ruine avant que la forêt de Birnam vienne à Dunsinane.
Il sort.
Le médecin. Si j'étais une bonne foi élargie de Dunsinane, il n'est pas de profit qui m'y ferait revenir.
Il sort.
Scène 22. Les environs de Dunsinane, une forêt à l'horizon. Entre sous des drapeaux au son du tambour, Malcolm, le vieux Siward et son fils, Macduff, Mentes, Casness, Angus, Lennox, Ross, suivis de soldats en marche.
Malcolm.
Cousin, j'espère que le jour n'est pas loin où nous serons en sûreté dans nos foyers.
Mentes.
Nous n'en doutons nullement.
Siward.
Quelle est cette forêt devant nous?
Mentes.
La forêt de Birnam.
Malcolm.
Que chaque soldat coupe une branche d'arbre et la porte devant lui. Par là nous jetterons l'ombre sur notre force et nous mettrons en erreur les éclaireurs ennemis.
Les soldats. Nous allons le faire.
Siward. Tout ce que nous apprenons, c'est que le tyran tient toujours dans Dunsinane avec confiance et attendra que nous l'y assiégions.
Malcolm.
Là est sa suprême espérance, car partout où l'occasion s'en offre, petits et grands lui font défection. Il n'a plus à son service que des êtres contraints dont le cœur même est ailleurs.
Macduff.
Que nos justes censures attendent l'événement infaillible. Jusque-là, déployons la plus savante bravoure.
Siward.
Le temps approche où une décision nécessaire nous fera connaître notre avoir et notre déficit. Les conjectures de la pensée reflètent ces espérances incertaines. Mais le dénouement infaillible, ce sont les coups qui doivent le déterminer. À cette fin, précipitons la guerre.
Ils se mettent en marche.
Scène 23. Dunsinane, intérieur du château. Entre sous les drapeaux au son du tambour, Macbeth, Seton et des soldats.
Macbeth. Qu'on déploie nos bannières sur les murs extérieurs. Le cri de garde est toujours « Ils viennent !» Notre château est assez fort pour narguer un siège. Qu'il reste étendu là jusqu'à ce que la famine et la fièvre les dévorent. S'il n'était pas renforcé par ceux qui devraient être des nôtres, nous aurions pu hardiment aller à eux, barbe contre barbe, et les faire battre en retraite jusque chez eux. Quel est ce bruit?
Seton.
Ce sont des cris de femmes, mon bon seigneur.
Macbeth.
J'ai presque perdu le goût de l'inquiétude. Il fut un temps où mes sens se seraient glacés au moindre cri nocturne, où mes cheveux, à un récit lugubre, se seraient dressés et agités comme s'ils étaient vivants. Je me suis gorgé d'horreur. L'épouvante familière à mes meurtrières pensées ne peut plus me faire tressaillir. Pourquoi ces cris?
S'étonne.
La reine est morte, monseigneur.
Macbeth.
Elle aurait dû mourir plus tard. Le moment serait toujours venu de dire ce mot-là. Demain, puis demain, puis demain, glisse à petits pas de jour en jour, jusqu'à la dernière syllabe du registre des temps. Et tous nos hier n'ont fait qu'éclairer pour des fous le chemin de la mort poudreuse.
Éteins-toi, éteins-toi, court flambeau. La vie n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, et qui ne signifie rien. Entre un messager. Tu viens pour user de ta langue. Ton compte, vite. Le messager. Mon gracieux seigneur, je voudrais vous rapporter ce que j'affirme avoir vu, mais je ne sais comment faire. Macbeth. Eh bien, parlez, monsieur. Le messager. Comme je montais ma garde sur la colline, j'ai regardé du côté de Birnam, et tout à coup, il m'a semblé que la forêt se mettait en mouvement. Macbeth le frappant. Misérable menteur! Le messager. Que j'endure votre courroux si cela n'est pas vrai. Vous pouvez à 3000 d'ici la voir qui arrive. Je le répète, c'est un bois mouvant. Macbeth. Si ton rapport est faux, je te ferai pendre vivant au premier arbre jusqu'à ce que la faim te racornisse. S'il est sincère, je me soucie peu que tu m'en fasses autant. Je rétracte ma résolution et je commence à soupçonner l'équivoque du démon qui ment en disant vrai. Ne crains rien jusqu'à ce que la forêt de Birnam marche sur Dunsinan. Et voici que la forêt marche vers Dunsinan. Aux armes et sortons! Si ce qu'il affirme est réel, nul moyen de fuir d'ici ni d'y demeurer. Je commence à être las du soleil, et je voudrais que l'empire du monde fût anéanti en ce moment. Qu'on sonne la cloche d'alarme. Vent, souffle, viens, destruction! Nous mourrons du moins le harnais sur le dos. Ils sortent. Scène 24. Une plaine devant le château. Entre sous les drapeaux au son des tambours, Malcolm, le vieux Siward, Macduff, etc., et des soldats portant des branches d'arbres. Malcolm. Assez près maintenant, jetez vos écrans de feuillage, et montrez-vous comme vous êtes, vous, digne oncle, avec mon cousin, votre noble fils. Vous commanderez notre front de bataille. Le digne Macduff et nous, nous nous chargeons du reste, conformément à notre plan. Siward. Adieu. Pour peu que nous rencontrions ce soir les forces du tyran, je veux être battu, si nous ne savons pas leur tenir tête. Macduff. Faites parler toutes nos trompettes, donnez-leur tout leur souffle, à ces bruyants héros du sang et de la mort. Ils sortent. On entend des fanfares d'alarme prolongées. Scène 25. Dunsinan, une autre partie de la plaine. Macbeth. Ils m'ont lié à un poteau, je ne puis pas fuir, et il faut que je soutienne la lutte comme un ours. Où est celui qui n'est pas né d'une femme? C'est lui que je dois craindre, ou personne. Entre le jeune Siward. Le jeune Siward. Quel est ton nom? Macbeth. Tu serais effrayé de l'entendre. Le jeune Siward. Non. Quand tu t'appellerais d'un nom plus brûlant que tous ceux de l'enfer. Macbeth. Mon nom est Macbeth. Le jeune Siward. Le diable lui-même ne pourrait prononcer un titre plus odieux à mon oreille. Macbeth. Non, ni plus terrible. Le jeune Siward. Tu mens, tyran abhorré. Avec mon épée, je vais te prouver ton mensonge. Ils se battent. Le jeune Siward est tué. Macbeth. Tu étais né d'une femme. Je souris aux épées, je nargue les armes brandies par tout homme né d'une femme. Il sort. Fanfare d'alarme entre Macduff. Macduff. Le bruit est de ce côté. Tyran, montre ta face. Si tu n'es pas tué de ma main,
Les ombres de ma femme et de mes enfants me hanteront toujours. Je ne puis pas frapper les misérables Irlandais dont les bras sont loués pour porter des bâtons. C'est toi, Macbeth, qu'il me faut. Sinon, je rentrerai au fourreau sans en avoir essayé la lame, mon épée inactive. Tu dois être par là. Ce grand cliquetis semble annoncer un combattant du plus grand éclat. Fais-le-moi trouver fortune, et je ne demande plus rien.
Il sort, fanfare d'alarme, entre Malcolm et le vieux Siward.
Siward. Par ici, mon seigneur, le château s'est rendu sans résistance. Les gens du tyran combattent dans les deux armées. Les nobles Tan guerroient bravement. La journée semble presque se déclarer pour vous, et il reste peu à faire.
Malcolm. Nous avons rencontré des ennemis qui frappent à côté de nous.
Siward. Entrons dans le château, seigneur.
Ils sortent. Fanfare d'alarme. Rentre Macbeth.
Macbeth. Pourquoi jouerais-je le fou romain et me tuerais-je de ma propre épée? Tant que je verrai des vivants, ces entailles feront mieux sur eux.
Rentre Macduff.
Macduff. Tourne-toi, limier d'enfer, tourne-toi.
Macbeth.
De tous les hommes, je n'ai évité que toi seul. Mais retire-toi, mon âme est déjà trop chargée du sang des tiens.
Macduff.
Je n'ai pas de parole. Ma voix est dans mon épée, scélérat ensanglanté de forfaits sans nom.
Ils se battent.
Macbeth, tu perds ta peine. Tu pourrais aussi aisément balafrer de ton épée l'air impalpable que me faire saigner. Que ta lame tombe sur des cimiers vulnérables. J'ai une vie enchantée qui ne peut pas céder à un être né d'une femme.
Macduff,
n'espère plus dans ce charme. Que l'ange que tu as toujours servi t'apprenne que Macduff a été arraché du ventre de sa mère avant terme.
Macbeth. Maudite soit la langue qui me dit cela, car elle vient d'abattre en moi le meilleur de l'homme.
Qu'on ne croit plus désormais ces démons jongleurs qui équivoquent avec nous par des mots à double sens, qui tiennent leurs promesses pour notre oreille et la viole pour notre espérance.
Je ne me battrai pas avec toi.
Macduff. Alors rends-toi, lâche, et vis pour être le spectacle et l'étonnement du siècle. Nous mettrons ton portrait comme celui de nos monstres rares sur un poteau et nous écrirons dessus « Ici, on peut voir le tyran. »
Macbeth. Je ne me rendrai pas.
Pour baiser la terre devant les pas du jeune Malcolm, ou pour être harcelé par les malédictions de la canaille. Bien que la forêt de Birnam soit venue à Dunsinan, et que tu sois mon adversaire, toi qui n'es pas né d'une femme, je tenterai la dernière épreuve. J'étends devant mon corps mon belliqueux bouclier, frappe Macduff, et damné celui qui le premier criera « Arrête, assez !»
Ils sortent en se battant, retraite, fanfare, rentre tambour battant, enseigne déployée, Malcolm, le vieux Siward, Ross, Lennox, Angus, Casnes, Mentes et des soldats.
Malcolm, je voudrais que les amis qui nous manquent fussent ici sains et saufs.
Siward,
il faut bien en perdre, et pourtant avoir ce qui reste. Une si grande journée ne nous a pas coûté cher.
Malcolm.
Macduff nous manque, ainsi que votre noble fils.
Ross à Siward.
Votre fils, Milord, a payé la dette du soldat. Il n'a vécu que jusqu'à ce qu'il fût un homme. À peine sa prouesse lui a-t-elle confirmé ce titre, au poste immuable où il a combattu, qu'il est mort comme un homme.
Siward. Il est donc mort.
Ross, oui, et emporté du champ de bataille. Votre douleur ne doit pas se mesurer à son mérite, car alors elle n'aurait pas de fin.
Siward,
a-t-il reçu ses blessures par devant?
Ross, oui, de face.
Siward, eh bien, qu'il soit le soldat de Dieu. Eussé-je autant de fils que j'ai de cheveux,
je ne leur souhaiterais pas une plus belle mort, et voilà son glas sonné. »
Malcolm. « Il mérite plus de regrets, il les aura de moi. »
Siward. « Il n'en mérite pas plus. On dit qu'il est bien parti et qu'il a payé son écho. Sur ce, que Dieu soit avec lui. Voici venir une consolation nouvelle. »
Rentre Macduff, portant la tête de Macbeth au bout d'une pique.
Macduff. « Salut, roi, car tu l'es. »
Il enfonce la pique en terre. « Regarde où se dresse la tête maudite de l'usurpateur. Notre temps est libre. Ceux que je vois autour de toi, perles de ta couronne, répètent mentalement mon salut. Je leur demande de s'écrier tout haut avec moi « Salut, roi d'Écosse !»
Tous « Salut, roi d'Écosse !»
Fanfare.
Malcolm. Nous ne ferons pas une large dépense de temps avant de compter avec tous vos dévouements et de nous acquitter envers vous.
Tan et cousin, dès aujourd'hui soyez comtes, les premiers que jamais l'Écosse ait désignés par ce titre. Tout ce qui reste à faire pour replanter à nouveau notre société, rappeler nos amis exilés qui ont fui à l'étranger les pièges d'une tyrannie soupçonneuse. Dénoncer les ministres cruels du boucher qui vient de mourir et de son infernale reine qui s'est, dit-on, violemment ôté la vie de ses propres mains. Enfin, tous les actes urgents qui nous réclament, nous les accomplirons, avec la grâce de Dieu, dans la mesure, le temps et le lieu voulus. Sur ce, merci à tous et à chacun. Nous vous invitons à venir à Scone voir notre couronnement.
Fanfare, tous sortent. Fin de Macbeth.